Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous avez laissé hier, Brice, sur la bataille des nations de Leipzig en 1813, qui sonne le glas de l'Europe napoléonienne. Les Allemands, qui étaient encore loin de constituer une nation, se sont pour la première fois unis pour chasser l'envahisseur français. Mais pour nous, Français, le mythe du féroce soldat prussien date de 1870.
Oui, et comme le soulignent les auteurs du livre « Ennemis héréditaires, point d'interrogation », un dialogue franco-allemand qui vient de paraître chez Fayard, la France est battue deux fois à cette époque. Nous subissons d'abord la défaite des armées du Second Empire en septembre 1870, puis celle du régime républicain qui lui a succédé alors. Gambetta, envolé de Paris assiégé en ballon dirigeable, a tenté en vain de renouer avec la levée en masse des armées révolutionnaires. En vain, puisque le 1er mars 1871, les troupes allemandes paradent sur les Champs-Élysées. Mais le livre capital, pour comprendre le traumatisme infligé alors à la France, c'est celui de Claude Dijon qui s'appelait « La crise allemande de la pensée française 1870-1914 ». Avant 1870, selon Dijon, le personnage de l'Allemand renvoie à l'idylle Biedermeier. C'est un cœur pur qui sert surtout à mettre en valeur par contraste le caractère frivole et corrompu des mœurs parisiennes. Vous avez d'un côté le poète romantique, fidèle à l'esprit de son peuple, digne et sérieux, et de l'autre, la blague et l'immoralité cynique du boulevard. Allemand, peuple de rêveurs, vieux, écrit Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues. Et les romans d'Erckmann-Chatrian à l'époque évoquent un monde patriarcal dans un décor de vieux châteaux en ruine, refuge de fraîcheur et de pureté. Madame de Staël a fixé le type de l'Allemand pour des décennies. Et Hippolyte Taine, germanophile, s'émerveille alors de la liberté de recherche et de la densité intellectuelle qui lui semble caractériser la vie universitaire en Allemagne. D'où la douloureuse surprise de la défaite de 70. Tout à coup, voici que le rêveur romantique, entiché de métaphysique et profondément moral, se mue en une brute en uniforme. Et surtout, la supériorité collective des Allemands apparaît alors aux Français fondée sur un sens de l'organisation impersonnelle et malfaisante dont eux-mêmes passent pour dépourvus pour cause d'individualisme forcené. Et c'est alors que le philosophe français Helme-Marie Caro lance l'idée selon laquelle il y aurait deux Allemagnes. À côté de celle qu'a popularisée Madame de Staël, écrit-il dans Jour d'épreuve 1870-71, il y a l'Allemagne de l'intelligence et de la force, celle qui aspire à la suprématie universelle et à l'empire du monde. Si la première est idéaliste et rêveuse, l'autre pratique à l'excès sur la scène du monde l'utilitarisme à outrance, elle est âpre à la curée. Et s'il y a deux Allemagnes pour ces penseurs français de l'époque, la bonne c'est celle de Kant et la mauvaise c'est celle de Hegel. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette défaite de 70 et 71, c'est le choc qu'elle provoqua parmi les meilleurs esprits du pays. La France se mit à l'école de l'Allemagne pour se réformer en profondeur. Chacun son tour, n'est-ce pas ? Les élites françaises connaissent alors un moment kantien, illustré en particulier par le philosophe Charles Renouvier, qui voit, lui, dans la Prusse, la négation de la liberté et dont le responsable serait l'esprit objectif, selon Hegel. Il lui oppose, Renouvier, un néo-kantisme qui va devenir, figurez-vous, le socle intellectuel de la Troisième République naissante. L'Allemagne nous est supérieure parce qu'elle a un sentiment élevé du devoir et parce qu'elle respecte la science, assurent les fondateurs de notre école républicaine, parmi eux, on le sait, un très grand nombre de protestants. Après la défaite, une pléiade de grands esprits vont ausculter la France afin de tenter de comprendre les causes de notre défaite en la comparant à l'Allemagne. Je cite là Hippolyte Taine. « La révolution est une expérience infiniment honorable pour le peuple qui l'a tentée, mais c'est une expérience manquée. En ne conservant qu'une seule inégalité, celle de la fortune, en ne laissant debout qu'un seul géant, l'État et des milliers de nains, en créant un centre puissant, Paris, au milieu d'un désert intellectuel, la province, en transformant tous les services sociaux en administration, la révolution a créé une nation dont l'avenir est peu assuré. » Voyez, comme la thèse du mal français est ancienne et comme ses conclusions sont depuis longtemps connues et convergentes. Mais pour en revenir au livre d'Hélène Miard de la Croix et d'Andreas Wirsching, « Ennemis héréditaires, point d'interrogation », on y lit que le sentiment d'infériorité était alors largement partagé. Parce que si la Troisième République jugeait la France amputée de l'Alsace et de la Lorraine, l'Empire allemand, lui, estimait ne pas avoir sa place au soleil, selon l'expression fameuse du chancelier Bernhard von Bülow. Cette Allemagne en expansion, écrivent-ils, avait le sentiment d'avoir été lésée et traitée de manière injuste par les Français et les Britanniques qui s'étaient partagé l'Empire du monde. D'où d'ailleurs la tentative avortée de s'emparer du Maroc afin d'en faire une colonie allemande. On trouve aussi dans ce livre une des causes mal connues chez nous de la désastreuse guerre de 14, c'est que les affaires militaires en Allemagne étaient du strict ressort de l'empereur et qu'elles se décidaient en Prusse, hors du contrôle du Reichstag. En France, l'armée, au contraire, demeurait sous le contrôle du pouvoir civil. Vous savez la fameuse phrase de Clémenceau, « La guerre, c'est une chose bien trop grave pour être confiée aux militaires ».
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, mais également sur l'application Radio France. On vous retrouve demain.